l'anatomie d'une promesse.
Alors que les armes grondent au Moyen-Orient, une évidence s'impose, la guerre n'a jamais vraiment disparu. Et avec elle, une question essentielle refait surface, qu'est-ce que la paix au fond ? Elle est une construction fragile, toujours menacée, toujours à réinventer. Nous l'avions oubliée, elle est précieuse.
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le spécialiste des relations internationales, Bertrand Badi.
Épisode 2, 1648, la paix des États.
La ville entière jubilait déjà et le peuple manifesta sa joie à la vue des anciens ennemis jurés, captivés par leur divertissement. Chacun fut renforcé dans la conviction que cette fois, on allait finir par en venir vraiment à la paix. Lettre d'Ottavio Piccolomini à l'empereur Ferdinand III à Nuremberg, le 9 octobre 1649. Bertrand Badi, on poursuit notre conversation. Là, on est sur une période hyper importante. En géopolitique, souvent, les cours de relations internationales commencent par 1648. Pour la paix aussi, dans l'extrait que je viens de lire, on a le sentiment que la ville entière jubile parce que la véritable paix va advenir, parce qu'on n'humilie pas les adversaires, parce qu'il y a là quelque chose d'une main tendue, on allait en venir vraiment à la paix. Alors dites-moi d'abord, pourquoi est-ce que 1648 est si important ?
Alors, 1648, vous avez raison, c'est une grande coupure qui a été d'ailleurs brevetée en cela qu'on appelle notre système international le système westphalien.
Voilà.
Alors, il faut dire, pour avoir tous les éléments en main, que 3 ans après, sort un ouvrage qui va être la grammaire politique tout court, mais des relations internationales en particulier, qui est le Léviathan de Hobbes. Hobbes est un témoin vivant de 1648, de la guerre de 30 ans, qui a commencé en 1618 oui. et qui s'est terminée par les traités de Münster et Osnabrück, que l'on résume sous le nom générique de paix de Westphalie. Et Hobbes était un bonhomme absolument obsédé par l'idée de sécurité. Pourquoi ? Parce que quand sa mère était enceinte, il a eu à vivre la menace de l'invincible armada. Elle a eu tellement peur, maman Hobbes, qu'elle a accouché prématurément. Et le petit Hobbes en a été marqué toute sa vie. Et puis après, son père va se tirer du foyer. Et puis après, il va y avoir la guerre de 30 ans. Et puis après, il va y avoir la guerre civile d'Angleterre. Donc on est dans une ambiance...
On comprend mieux, l'homme est un loup pour l'homme.
Absolument, l'homme est un loup pour l'homme, mais surtout, surtout, l'idée anti-aristotélicienne que désormais la fonction du politique, c'est assurer la sécurité.
Ouais.
C'est l'obsession sécuritaire qui naît de là.
L'obsession.
Voilà, et bravo, c'est exactement ça. Et derrière cela, il se cache justement deux loups. Et c'est ça qu'il faut avoir bien en tête. La première, c'est qu'il y a un seul remède à l'insécurité qui nous fait tous trembler, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que c'est le souverain qui peut vous protéger.
Oui.
Et c'est là que vient l'idée de pacte social, c'est-à-dire j'abandonne une part de ma liberté entre les mains du souverain qui, en échange, me protège.
En l'occurrence, mes armes, par exemple.
Voilà. Et puis, il y a un deuxième loup qui se cache derrière le premier loup. C'est que s'il faut la souveraineté pour assurer la sécurité, ça veut dire que le monde est constitué d'une collection de souverains, que d'ailleurs Hobbes nomme des gladiateurs. Vous voyez, c'est parti,
ah oui.
C'est parti. Et derrière cette idée d'État souverain gladiateur, il y a une idée terrible, terrible, qui va peser sur notre histoire européenne et euro-américaine jusqu'à aujourd'hui. À savoir que puisque le monde est constitué d'États souverains, s'ils ont des différends entre eux, il n'y a pas d'autre moyen de régler les différends que de faire la guerre. La guerre devient fonctionnelle, la guerre devient une utilité théorisée par Hobbes, c'est-à-dire que la guerre est la règle du jeu. Alors étonnez-vous que la paix n'ait pas de définition positive. Non, la norme, c'est la guerre. Alors, la guerre, on ne peut pas la faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est là que va apparaître une terrible réincarnation de la paix. C'est plus la stabilité de la Pax Romana. La paix, du coup, c'est l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres ne pourra être ce temps de battement entre les conflits que grâce à quoi ? À l'équilibre de puissance. Mmh. Voilà le terme sacré. La paix, c'est l'équilibre de puissance. C'est-à-dire, si moi, Thomas, je me sens plus fort que vous, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais me précipiter sur vous, vous piquez vos lunettes, vous piquez votre montre, etc. Si c'est vous qui vous sentez plus fort que moi, vous allez faire exactement la même chose. Mais si nous sentons tous les deux que nous sommes de puissance équivalente, quelle est la rationalité ? Ben, c'est de ne pas se taper dessus. Et donc, c'est ça la paix, ne pas se taper dessus.
Elle devient une valeur négative, qu'on d'ailleurs définit par la négative.
Ne pas. Exactement. Ouais, ouais. Et donc, pourquoi Westphalie est important ? Parce que Westphalie va sacraliser le principe de souveraineté, et notamment de façon tout à fait remarquable au moment où il faudra redéfinir l'Empire, qui sera constitué d'unités souveraines qui ont même le droit de se coaliser, de s'allier. Et là, on en reparlera parce que la notion d'alliance devient une notion consubstantielle à l'idée de guerre et de paix, c'est très important. Tout ceci assurant cet équilibre de puissance. Maintenant, vous êtes en paix que si vous êtes dans cet équilibre fragile, nécessairement précaire. Il y a un homme extraordinaire, moi j'aime ces gens dont on ne parle jamais et qui sont extraordinaires, c'est l'abbé de Saint-Pierre, au XVIIIe siècle. L'abbé de Saint-Pierre a dit, mais ça va pas. Qu'est-ce que c'est que votre histoire d'équilibre de puissance ? Si vous considérez que la paix, c'est l'équilibre de puissance, ça veut dire que la moindre mouche, la moindre pichenette va tout remettre en question. Est-ce que vous considérez normal que votre paix dépende de cet équilibre si précaire qui peut être mis en cause à chaque instant ? Oh, ça n'a pas plu qu'il dise ça, on l'a viré de l'Académie française, on lui a fait taire, et même Jean-Jacques Rousseau, qui avait une certaine sympathie pour lui, parce que Jean-Jacques Rousseau était quand même très attaché aussi à sa manière, à cette idée de paix, va dire non, c'est pas sérieux l'abbé, là, ça va pas, votre histoire de remise en cause de l'équilibre de puissance, vous nous annoncez quoi ? La Confédération des États, mais la Confédération des États, c'est un viol de la souveraineté, donc je ne suis pas d'accord. Vous voyez, le serpent se fera la queue, mais c'est le principe de souveraineté qui va se marier avec le principe de guerre.
C'est intéressant, et il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, qui est le mot de frontière. Parce que ce qui aussi est le détonateur, c'est que la souveraineté s'exerce dans des frontières. Or, les frontières sont souvent définies par les hommes, par l'histoire, et beaucoup de puissances n'ont qu'une envie, c'est de les violer en permanence.
Alors, vous avez tout à fait raison de me reprocher mes lacunes, parce que c'en est une. En quoi ? Eh bien, on va voir que la guerre va dessiner les cartes, maintenant, de façon très claire. Depuis Westphalie, finalement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après, ça va être plus compliqué, on en parlera.
Oui, bien sûr.
Mais surtout, ça introduit la fonction des fameuses négociations de paix.
Oui.
Quand on était au lycée, on apprenait tous ces traités de paix. Alors, j'ai dit Münster, Osnabrück, on pourrait dire Nimègue, Ryswick, Pyrénées, Aix-la-Chapelle, Utrecht, Rastatt. Je vous ferai réciter, il y a énormément de traités de paix qui se sont succédés. Pourquoi fonctionnait-il ?
Oui.
Parce que maintenant, il ne fonctionne plus, on en reparlera.
Oui, on en parlera.
Il ne fonctionne plus. Pourquoi il fonctionnait à l'époque ? Parce que c'est la règle du jeu. C'est-à-dire, le monde est affaire d'équilibre de puissance. Quand l'équilibre est modifié par la guerre, du fait qu'il y a, à l'issue de la guerre, un vainqueur et un vaincu, ce qui n'est plus le cas actuellement, n'est-ce pas ? Eh bien, on redessine les frontières. Le vainqueur, il gagne un peu plus de territoire, et le vaincu, il en perd un petit peu. Et c'est comme ça qu'on rétablit la paix jusqu'à la guerre suivante.
Mais ça déséquilibre, non ? Si le vainqueur impose ses desiderata au vaincu, est-ce que l'équilibre des puissances n'imposait pas à l'époque que le vainqueur est en tête cela, ou que d'autres lui mettent en tête qu'il y avait intérêt à ce qu'il y ait un équilibre à nouveau ?
Oui, mais on va définir un nouvel équilibre de puissance qui restera le temps, un temps inconnu et incertain. Ça peut être très peu, ça peut être plus long. Généralement, le temps entre deux guerres était relativement bref et relativement court. Alors, il y a un moment où il y a un bonhomme qui a dit « On peut peut-être jouer d'un système astucieux d'équilibre des alliances. »
Il est autrichien, non ? Non ?
Il est prussien, il va devenir allemand, si vous me voyez venir.
Allez-y.
Il s'appelle Otto von Bismarck.
Ouais.
Et la grande idée d'Otto von Bismarck, un homme extrêmement subtil, il a dit, on a vaincu la France, elle est humiliée par la défaite, donc elle va chercher à se venger. Vous voyez, c'est là que la notion d'équilibre de puissance est remise en cause par cet esprit de revanche.
Alors, on va y venir, bien sûr, c'est très important dans les cycles, et c'est un mot d'un de vos livres, de l'humiliation et de ce qu'elle produit. Mais avant ça, j'aimerais, il y a une date qu'on n'a pas citée et qu'on doit quand même, dans une série qui donne des jalons aux gens qui nous écoutent, 1815, le traité de Vienne, c'est aussi un nouveau découpage, un nouvel équilibre de l'ordre, sur la même logique que
Il y a deux façons de le lire, 1815, et c'est très intéressant, parce que vous avez la façon classique.
Donc Napoléon est terrassé.
Napoléon a été battu, la coalition des vainqueurs a terrassé l'ennemi, et donc va redécouper l'Europe. Là, on est dans le modèle classique qu'on a vu fonctionner pendant deux siècles, à l'époque, un petit peu moins de deux siècles, 1648-1815. Mais il y a une autre lecture qui commence à se profiler et qui va peut-être faire bouger les lignes, à savoir que pour la première fois dans l'histoire, les monarques westphaliens, ils ont eu chaud, ils ont eu peur. Ils ont vu que l'un des leurs avait perdu son trône, bon, ils allaient lui redonner à travers la Restauration en France, mais ils se sont dit on aurait pu tous y passer.
Oui.
Et donc, intervient alors l'idée, non pas seulement d'équilibre de puissance, mais de système international. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un système dont nous serons tous les garants, c'est-à-dire une espèce d'assurance collective. Ce qui est nouveau, parce qu'avant, on se regardait en chien de faïence, c'était la compétition. Retenez bien ce mot « compétition » qui structurait l'ordre westphalien classique. Là, c'est plus seulement la compétition. Mes amis, si on veut durer, il faut que l'on s'épaule. Et c'est là que va naître l'idée de Sainte-Alliance. Alors les Anglais n'aiment pas beaucoup parce qu'ils ont vu le piège. Ils ont vu le piège, ils se sont dit « Ouh là là, s'il y a une Sainte-Alliance, ça veut dire que notre politique étrangère, elle devra se coordonner avec celle du tsar ou celle de l'Empire avec lequel on ne se retrouve pas. » Donc, ce n'était pas vraiment consensuel. Mais ils ont eu tellement peur qu'ils se sont alliés et l'Alliance, cette fois-ci, n'est plus réglé par le principe d'équilibre de puissance, mais par l'idée de système. Et la paix commence avec Vienne à devenir non pas une paix compétitive ou relationnelle, mais une paix systémique.
Avec des instruments, des outils pour la maintenir, cette paix ? Si c'est un système, il fonctionne sur avec des instruments.
Eh ben, l'idée, c'est qu'on va créer ce concert européen, il va avoir des conférences, on va se réunir, peut-être petit conseil de sécurité avant la lettre, on se réunit tous les ans, alors vous en avez eu des très importants, Tropao par exemple, qui a été très important parce que elle a décidé de quoi, figurez-vous ? Des guerres d'intervention. Les guerres d'intervention, on croit que ça commence avec la guerre du Vietnam, mais en fait ça a commencé quand il fallait mater les mouvements de nationalité qui, à nouveau, menaçait les trônes en question. Donc, la paix déménage. La paix, vous voyez, elle quitte les vieux locaux de la compétition et de l'équilibre de puissance pour entrer dans le domaine de la concertation, mais dans la concertation de puissance. Les petits ne comptent pas. Ça me fait vraiment penser au Conseil de sécurité. Ce qui compte, c'est les gros qui se mettent d'accord pour sauver l'essentiel.
Sans compter les colonisés.
Ah bah,
là, c'est le début. Là, c'est le...
Ils n'ont même, même pas leur mot à dire.
Pour dire un mot aussi, la guerre, elle est là aussi. Hein.
Ils ne sont même pas au courant. Hein.
Ouais. Ils n'ont même pas le droit d'être appelés guerre quand ils se défendent.
Exactement. Mais je voudrais vous citer un personnage presque contemporain qui est François Mitterrand. Lorsque, après la chute du mur, George H. Bush, président des États-Unis, a dit « on maintient l'OTAN », à ce moment-là, François Mitterrand dit « mais, monsieur le président, c'est la nouvelle Sainte-Alliance que vous nous proposez ». C'est très intéressant.
Ouais. Le passé et le présent se regardent souvent et pas forcément en chien de faïence. On a évoqué ensemble dans cet épisode l'entre-deux-guerres, le cycle aussi infernal de la guerre puis du sentiment de revanche. Voilà qui va nous conduire naturellement dans le prochain épisode, et bien dans l'entre-deux-guerres. Paix, anatomie d'une promesse est un podcast original de France Inter.